Vous appelez ce que vous faites l'accompagnement pour mourir vivant. C'est presque dur à entendre.
Et c'est génial à entendre.
Vous voulez dire qu'on peut tous bien mourir. Et j'aimerais.
Je ne sais pas si. On peut.
Comme ça.
Je crois en la liberté. Ça ne veut pas dire qu'on meurt tous bien. Non. Mais on peut. Il y a une chance qui est offerte à nous tous, oui.
Mais vous, dans votre travail auprès de ces personnes, qu'est-ce que vous apportez de nouveau ?
Ben, moi, je travaille à deux niveaux. Un niveau, c'est avec le mourant, mais de plus en plus, en fait, avec la famille. Parce que j'estime que ceux qui doivent être à côté, c'est la famille, et pas des étrangers. Bon, il y a les soignants déjà. Donc, je forme aussi les soignants. Mais ce qui est important, quand vous entendez, eh bien, on est dans un accouchement en fin de vie. Ça donne déjà une image qui réveille, parce que tous on l'a vécu de l'autre côté, tous. Certains, les femmes, vous l'avez vécu avec vos enfants, encore du versant mère, qui met l'enfant dehors. Mais alors, ça change quand même totalement. Si vous savez qu'il y a un accouchement, ça veut dire que ça va quelque part. Ça contient déjà un après, et que c'est une préparation à l'après. Et quand je parle aux parents comme ça, vous comprenez les phases dans lesquelles vous êtes. Regardez ce que vous me dites, eh bien vous êtes dans les contractions avec votre maman. Il faut savoir que la famille aussi est dans les contractions. On peut dire aussi qu'en fin de vie, il y a un couple qui se joue. Bon, il y a un couple intérieur, hein, parce qu'il faut aussi s'accoucher soi-même. Mais il y a un couple entre les proches, la famille, qui accompagne et qui, évidemment, retient en général. Et puis, il y a le mourant qui se correspond au bébé. Alors, quand les parents comprennent, eh bien, ils sont un peu dans la place de la maman. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire quand une mère se crispe dans les contractions ? C'est pour ça qu'on fait les préparations à l'accouchement, pour qu'elle ne se crispe pas, pour qu'elle ne se raidisse pas, pour qu'elle ne soit pas dans un non, dans la douleur, mais qu'elle lâche dans la douleur. Donc c'est la même chose dont il s'agit en fin de vie. À chaque contraction, à chaque perte, à chaque difficulté, nous, automatiquement, on se crispe. On dit non, non, ce n'est pas juste, non, on ne veut pas. Et le travail consiste, comme pour la mère, eh bien, d'aller dans le sens de lâcher. Comment passer du versant de dire oui pour qu'on en profite de cette phase. Et c'est très important parce que nier que la personne va mourir va empêcher qu'on puisse être proche et qu'on puisse vivre encore quelque chose de très essentiel. Moi, je pense que ces étapes nous sont données pour que nous allions au bout d'un amour possible encore. Et cet amour, tant qu'on dit maintenant, on a encore tout le temps, et on ne va pas poser des actes nécessaires pour vivre encore cet amour. Le refus, le déni empêche la proximité.
Je voudrais me tourner un peu du côté du public et leur demander s'il y a certaines personnes qui souhaitent poser une question.
Je voulais simplement vous demander deux choses. La première concernant les mourants. Pourquoi vous n'expliquez pas que cette situation ne vit que dans nos civilisations ? Que chez les Africains, chez les Américains du Sud, ceux qui vivent dans les forêts, les Amérindiens, c'est tout naturel. C'est quelque chose qui s'apprend, qui est inné. Nous savons tous que nous, en vivant, nous mourrons. Donc c'est quelque chose que je connais, donc je ne comprends pas pourquoi, il faut l'expliquer que c'est aussi dans notre civilisation parce que nous n'avons pas appris. C'est quelque chose qui est tabou. Deuxièmement, au moment de la naissance, j'ai eu l'impression de comprendre que l'enfant est pratiquement subi un traumatisme en naissant. Mais la mère apporte quelque chose. Moi, je suis moi-même maman de plusieurs enfants. J'ai eu un siège qui est né parfaitement bien parce que je l'ai voulu qu'il naisse bien. Et le courant est passé entre mon enfant et moi et il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème. J'ai presque accouché naturellement toute seule. C'est comme la position devient naturelle. Il n'y a pas de difficulté. Je crois que c'est chez nous, dans nos civilisations occidentales, très industrialisées, où nous rencontrons les difficultés que nous nous mettons dans la tête. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait faire passer. Non pas la difficulté par elle-même, mais ce que nous appréhendons, ce que nous apprenons, qui est un peu faussé. Je dirais même naturellement faussé.
J'aimerais vous répondre à votre première intervention. C'est-à-dire qu'effectivement, avec les Africains, on n'a aucun accompagnement de cette sorte à faire. Mais il faut aussi dire que la civilisation occidentale, au niveau de la conscience, elle a passé à un autre niveau. C'est-à-dire, nous sommes vraiment dans une civilisation du moi. Tandis que dans ces civilisations que vous avez nommées les autres, c'est encore un nous tribal qui est régi par d'autres lois de conscience. Donc nous avons... Oui, il n'y a aucun critère de qualité que je dis que c'est l'un meilleur que l'autre, mais nous avons un autre niveau de conscience, c'est-à-dire le moi, par définition, il s'oppose. Lui, il est dans le non. Je suis différent de toi, alors que dans ces lois tribales, c'est la loi de l'ensemble qui régit encore. Donc, nous avons d'autres difficultés dues à cette autre conscience. Il s'agit à dépasser ce moi qu'on a gagné. Il faut le lâcher, enfin, de vie de nouveau. Voilà. Et en le lâchant, bon, il faut dire aussi que le moi, c'est pas tout mauvais. Hein. Il nous amène justement une individualité qui contient autre chose que ce qui existe dans les tribus où on est tous, on devrait tous être à un même niveau. Donc, en fin de vie, il y a d'autres enjeux pour celui qui a un moi, et plus qu'un moi hypertrophié, évidemment, plus ça va être difficile de le lâcher. Parce que tout est posé là-dessus, sur ce moi, je suis que ça. Parce qu'il ne sait pas qu'il y a autre chose. Et effectivement, l'image que j'utilise durant la vie, on a mis des couches et des couches et des couches et des couches. Et en fin de vie, il faut les enlever de nouveau, couche après couche, après couche, après couche. Et ainsi, donc, ça va être arrivé après avoir acquis le moi. Passer à quelque chose au-delà du moi dans le processus de mourir. Et votre deuxième intervention que vous avez faite, il ne faut pas le voir d'une manière négative. Mon Dieu, mais comment est-ce que j'ai accouché mon bébé? Mais pas du tout. Nous accouchons toujours de la manière comme nous pouvons faire. Ce que nous avons découvert, c'est que nous avons tous un traumatisme périnatal, c'est-à-dire une empreinte reçue à la naissance, qui s'appelle le départ de la personnalité, mais qui nous donne aussi une couleur unique, et qui, elle, va être après déclinée à travers la vie d'une manière répétitive. Enfin, ça, c'est issu de nos travaux de la psychanalyse corporelle. Il n'y a pas des traumatismes périnatals pires que des autres. Et ce n'est pas nécessairement le siège qui est le gros problème. Parce que le vécu du bébé est encore tout autre chose que le vécu de la maman. Parce que lui, il vit son histoire. Et il est confronté à ses épreuves à lui pendant ce passage. Oui. D'accord.
Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? J'aimerais que vous nous parliez d'un sujet qui touche beaucoup en ce moment, c'est l'euthanasie. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Mais il me semble
justement lié au moi, que c'est absolument logique que ça existe. Parce que le moi, il veut garder le contrôle jusqu'au bout. Et il faut, moi, je pense aussi, donc, dans les, ça se joue, à mon sens, donc, dans les phases 2 et 3, dans le long couloir des pertes, dans les contractions, quand il s'agit de perdre, quand je pense à Buffet, le peintre Buffet, quand lui, il commençait à trembler parce que le Parkinson prenait de plus en plus le dessus, lui, étant identifié que je suis peintre, il était impossible, et c'est pour ça qu'il a décidé aussi de mourir, il est impossible d'être autre chose, parce que le moi croit qu'il est rien s'il n'est plus ceci ou cela. Donc, l'euthanasie, c'est une réponse logique à « je ne veux pas être rien ». Donc, ils prennent la porte sortie de secours, je dirais. Plutôt que la porte sortie de lâcher le moi pour découvrir qu'ils sont autre chose, au-delà du moi. Et je ne vais pas la juger comme mauvaise ou bonne. C'est lié à un état de conscience que nous avons, et nous irons, je suis sûre, nous irons de plus en plus dans cette direction-là. Parce que l'enjeu qui se joue et qui est tellement difficile pour le moi qui ne veut pas lâcher, c'est si je peux décider jusqu'au bout, donc je m'élimine. Plutôt que d'apprendre une dernière leçon encore. Mais je crois aussi que ça contient une logique, parce que si on n'a pas appris durant sa vie à lâcher déjà, durant sa vie à profiter quand on perd, il va être extrêmement difficile en fin de vie de faire ce retournement. Je crois autant qu'en préparant une grossesse, ça ne commence pas quand vous avez des contractions. Ça commence des mois et des mois avant pour que la mère s'y prépare à affronter cette douleur autrement plutôt que dans la résistance. Donc il me semble aussi que la préparation à l'accouchement fin de vie, elle doit commencer durant la vie déjà. Pendant que nous ne sommes pas encore mourants, en tout cas pas officiellement.
Merci. Maintenant, je vais revenir un petit peu à vous, à votre travail. Concrètement, est-ce que vous avez commencé à mettre en pratique cet accompagnement pour mourir vivement, et surtout dans des structures officielles ?
Eh bien, dans les formations que je donne aux soignants, oui, ça a commencé.
En France, en Suisse ?
En France, oui, il y a une école, l'école de formation médicale et paramédicale qui est à Lyon pour la psychologie nucléaire. Donc, c'est pour soignants, médecins et tous les soignants qui tournent autour des mourants. Et puis en Suisse, à Genève, oui, en Suisse romande, où je soigne, où je pratique. Non, je soigne pas les soignants. Je pratique. Je forme les soignants.
Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser une question à Lydia Muller ?
Je voudrais savoir comment vous abordez la souffrance en fin de vie et l'abandon de la conscience. Pour un mourant, comment on peut l'aider ? Puisqu'en fait, la mort, c'est souvent aussi la souffrance. Et bon, si on traite la souffrance, ça peut être l'abandon de la conscience, justement, et la perte de...
Donc, vous parlez d'une souffrance psychique ?
Physique.
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 Moi, je ne suis pas médecin. Et je dirais que c'est un atout pour moi, parce que ça m'oblige d'aller, il y a assez de médecins aujourd'hui qui en soins palliatifs et sont très calés pour maîtriser la douleur physique. Les progrès que la médecine a fait dans ce domaine sont phénoménaux actuellement. Donc moi, je ne m'occupe pas de la douleur physique. Par contre, ce que j'ai découvert avec mes patients cancéreux, c'est que combien leur douleur physique est en lien avec leur douleur psychique. Je vais vous donner un exemple. J'avais un patient en stade terminal d'un cancer du pancréas. Et il vivait des courbatures extrêmement douloureuses. Il devait changer toutes les 30 secondes de position.
C'est parce que ça le contractait jusqu'à ce que la douleur le tenaille. Il changeait, il avait un répit de 30 secondes et ça le reprenait de nouveau. Et il n'y avait rien qui le relâchait. Donc il est arrivé dans cet état-là chez moi. Et moi, j'étais vraiment désemparée parce que devant une douleur physique comme ça, moi, psychologue, psychothérapeute, je ne peux rien faire. Il était plein de médicaments qui n'aidaient pas. Donc je lui ai dit, écoute, je peux faire une chose avec toi, si tu es d'accord. Qu'on aille voir de quoi cette contraction parle, qu'est-ce qui se passe dans cette contraction. Et si tu es d'accord, je vais t'aider à t'empêcher de tourner quand tu voudras te soulager, pour que tu la rencontres, cette contraction. Et j'ai fait quelque chose d'assez difficile, parce que quand quelqu'un a mal, on voudrait le soulager. Et là, j'ai aidé qu'il rentre dedans. Et ce qui s'est passé, quand je l'ai tenu, parce qu'il était d'accord, mais quand on est à bout de rouleau, on est prêt à accepter n'importe quoi, finalement. Et quand je l'ai tenu, il disait... Il voulait se débattre, et je l'ai tenu, hein, parce que j'ai quand même une certaine force. À un moment donné, il a commencé à gueuler, mais comme une bête. Et il a crié, voilà la prison de ma vie de tous les jours. Depuis toujours, je vis dans cette prison. Il a commencé à pleurer, à sortir. Quelle était sa prison à commencer avec sa mère, qu'il n'a jamais lâchée, ou de laquelle il n'a jamais su se séparer. Donc, voilà, en fin de vie, il a mis le doigt à travers cette douleur qui parlait comme un miroir dans son corps, la prison qu'il vivait. Homme tout gentil, toujours disant oui, serviable. Et il réalisait, là, en stade terminal, où il était vraiment emprisonné. Et je peux vous dire, il s'est levé, il avait un coussin là, comme ça, contre son ventre, serré, il se balançait. Et il disait, mais oh, j'ai plus mal. Et cette douleur était partie. Alors que sa femme a dû l'amener presque en le portant, il est reparti sur ses deux jambes. Donc, le travail que j'essaye de faire, c'est de les accompagner dans leur douleur. Et pour qu'une dernière rencontre puisse avoir lieu, de les rencontrer dans leur souffrance. Mais il faut aussi dire qu'il a fallu que je rencontre d'abord ma souffrance à moi, là où moi je crevais, dedans, pour que je puisse aider en dehors, là où j'ai pu m'aider moi.